France, Russie, anatomie d'une passion.
La fermeté de Macron dans le dossier ukrainien et les menaces de Poutine font plonger la relation entre la France et la Russie dans des eaux dangereuses, des relations glaciales, un nouveau chapitre d'une longue histoire passionnelle qui lie les deux pays, les deux peuples.
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'historienne Sabine Dulin.
Épisode 1, 1717, la découverte et la fascination.
Le tsar est un monarque digne de la plus grande admiration, malgré les grands défauts de la barbarie de son origine, de son pays et de son éducation. La France le regarde comme un prodige dont elle demeurera charmée. Saint-Simon, les mémoires. Bonjour Sabine Dulin.
Bonjour.
C'est avec vous, historienne de la Russie et de l'Union soviétique, professeure à Sciences Po, qu'on va raconter cette longue histoire de la relation entre la France et la Russie, une histoire tragique, romanesque. Le roman tient un rôle important dans la relation entre les deux pays, les deux peuples, les deux États, les deux gouvernements aussi. On va jouer d'ailleurs sur tous ces registres-là. Et une relation passionnelle, anatomie d'une passion. C'est ainsi qu'on a intitulé cette série ensemble, France-Russie, anatomie d'une passion. Vous sortez réflexion sur le despotisme impérial de la Russie, qui permet aussi de comprendre sur le temps long ce qui se joue aujourd'hui en Russie. C'est exactement l'esprit aussi de la conversation qu'on va mener ensemble, le temps long, pour comprendre ce qu'on vit en ce moment dans l'actualité. On commence, et j'ai cité Saint-Simon, qui raconte des années plus tard la venue à Paris du tsar Pierre le Grand en 1717. Il y a des mots intéressants dans ce qui a été écrit par Saint-Simon, la barbarie, les défauts de la barbarie, mais quand même quelqu'un d'important qui restera avec une mémoire importante pour la France. Racontez-nous d'abord qui est Pierre le Grand en 1717. Pourquoi c'est une bonne idée ou une mauvaise de commencer la série par cette date? Est-ce que c'est une date importante, et je l'espère, dans les relations entre la France et la Russie?
Oui, je pense que c'était une bonne idée de choisir cette date, parce que c'est, c'est quand même donc le tsar de Moscovie, puisqu'à l'époque c'est un peu ça. La Moscovie, c'est un pays de forêt, barbare, qu'on connaît mal en Europe. Et d'ailleurs, Pierre le Grand, qui donc gouverne déjà depuis... Enfin, il a déjà 45 ans, il est au pouvoir depuis un moment. Il avait d'ailleurs essayé de venir à la cour de Louis XIV, mais Louis XIV ne l'avait pas... Enfin, trouvait pas intéressant de le faire venir.
Oui, c'était fin du XVIIe, et oui, Saint-Simon en parle d'ailleurs aussi.
C'est 1695, ouais, je crois, ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Mais là, Pierre le Grand commence à intéresser un peu plus, parce que tout simplement, il a fait la guerre, et il a emporté contre la Suède, avec la bataille de Poltava en 1709. Et au même moment, la France est en train de finir la guerre de succession d'Espagne, et donc il y a des intérêts géopolitiques à faire venir Pierre le Grand en France. Et par ailleurs, Pierre le Grand, lui, son objectif, c'est de moderniser la Russie.
Oui.
On sait qu'il a fondé la ville de Saint-Pétersbourg, donc cette fenêtre sur l'Europe. Il a suivi les travaux de cette ville, hein, qui est improbable, hein, dans des marais. C'est un lieu épouvantable pour construire une ville, en fait. Et en plus, c'est juste à la limite de l'Empire russe. Donc, on se demande pourquoi construire là une capitale. Hein. Mais c'est quand même ça son objectif.
Et donc, Pierre, il est tourné vers l'Occident plutôt que vers l'Orient. Et il voit la France, l'Europe et la France en particulier, comme un moyen quoi, d'aller chercher des idées, d'aller chercher des relations particulières avec ce monde auquel il souhaite appartenir. C'est ça l'idée ?
Oui, il veut déjà, il veut aller observer pour tout simplement voir comment moderniser son pays. Donc,
ouais. Mais moderniser exemple, à quel endroit ?
Bah, par exemple, la première chose qu'il va faire quand il arrive en France, c'est visiter les chantiers navals de Dunkerque.
Ah ouais.
Quand il arrive en bateau, il va aller à l'observatoire pour parler avec des savants de l'île, etc. Il s'intéresse beaucoup aux cartes, aux fortifications, à tout ce qui est technique, en fait. Il va à la Sorbonne. Donc, ce qu'il veut, c'est effectivement une ouverture sur la culture, sur la technique, sur tout ça, et évidemment sur le militaire. Donc en fait, c'est quand même la rencontre entre une monarchie absolue française, qui est une puissance du continent, et un empire qui veut devenir une grande puissance sur le continent aussi, qui jusque-là était un peu à part, en périphérie, et qui va prendre pied à partir de là, même si ce n'est pas encore complet. Hein.
Je reviens sur les mots de Saint-Simon. Quand il parle, et je reprends ces mots précis, malgré les grands défauts de la barbarie de son origine, c'est comme ça que la France voit la Russie, un pays de barbares à ce point-là ?
Oui, alors c'est vrai qu'on est quand même dans, voilà, dans un pays qui est à la fois barbare, très exotique.
Ah oui.
Et alors Pierre le Grand, il donne tous les éléments pour effectivement à la fois fasciner et en même temps déranger. Parce qu'il n'a pas du tout le goût de l'étiquette, il n'est pas très bien habillé, il déteste les mondanités. Donc par exemple, on lui offre le Louvre pour habiter, mais en fait il va aller dans un hôtel particulier parce qu'il n'aime pas les
vivre dans ce genre
de choses. Bon, ce sera plus tard, en fait, au XVIIIe siècle, qu'on aime le luxe à la cour de Saint-Pétersbourg, mais pas tellement Pierre le Grand. Pierre le Grand, il est encore dans quelque chose d'autre. Et lorsqu'il rencontre donc le roi Louis XV, puisque Louis XIV est mort, et c'est la régence, et Louis XV, il a 7 ans. Et donc, Pierre le Grand, quand il le rencontre, il se précipite sur lui pour l'embrasser. Alors là, ça fait vraiment...
il le prend dans ses bras, dit même.
Il le prend dans ses bras, voilà. Donc ça fait beaucoup jaser, et alors on voit ce côté un peu sans... On considère que c'est un élément de la barbarie, en fait, d'une certaine manière, mais sympathique. C'est-à-dire, on lui accorde le fait d'être relativement plus libre que les monarques européens. Voilà.
Et j'ai même lu qu'il avait quasiment gagné la guerre des préjugés. C'est-à-dire que quand il s'en va, il est resté quand même plusieurs semaines en France, à Versailles, à Saint-Cloud. Enfin, il a vraiment un peu bougé, à Dunkerque, vous l'avez dit. En repartant, l'image de la Russie a changé. Qu'il avait gagné quelque chose à ce moment-là. Est-ce que c'est excessif de le dire ?
Oui, disons qu'il a étonné. Il a étonné par, je pense, son intelligence, sa volonté de comprendre plein de choses. Après, on a quand même tous ceux qui racontent qu'il boit beaucoup.
Oui.
Donc, la réputation d'alcoolique. Donc, il boit beaucoup, il est assez débauché, il a beaucoup de femmes, etc. Donc, mais ça va dans le sens de cette figure un peu d'un monarque qui vient quand même de loin. Il y a une vision quand même un tout petit peu orientale de ce Pierre le Grand, même si Pierre le Grand, lui, veut absolument être un monarque européen. D'ailleurs, il a laissé tomber, avant, les couronnes de tsar, c'était des chapkas, avec de l'or, etc., mais il y avait de la fourrure. Donc c'était vraiment la vieille couronne, avec Yvan le Terrible, etc. Et Pierre le Grand, lui, il adopte une couronne beaucoup plus européenne, et tout le cérémonial de la cour devient beaucoup plus européen.
Est-ce qu'il parle français ?
Alors, lui, je ne crois pas.
Parce qu'on dit toujours les élites russes parlent français.
Non, mais je pense que ça viendra plus tard.
C'est un peu plus tard.
Ouais.
Justement, allons plus tard, parce que plus tard, il y a une autre figure de tsarine en l'occurrence, là qui va presque, c'est un sens inverse, susciter une fascination des élites françaises, des élites des Lumières, qui trouvent en elle quasiment le monarque qu'ils rêveraient d'avoir chez eux en France, c'est Catherine II.
Elle arrive au pouvoir par un coup d'État, parce qu'en fait, c'est une petite princesse allemande qui est arrivée à 16 ans pour épouser le grand-duc, qui était donc l'héritier du trône. Et elle va complètement se russifier, donc elle apprend le russe, elle se convertit à l'orthodoxie. Et en fait, elle va faire un coup d'État contre son mari, qui est devenu Pierre III, et qui meurt dans des conditions louches. Et donc, elle devient la tsarine à la place de son mari, sans aucune légitimité a priori, mais en fait, elle s'impose et elle est relativement soutenue, notamment par une bonne partie de la noblesse. C'est une femme très, très intelligente. Et effectivement, elle va... Alors, il y avait déjà eu, entre Pierre le Grand et Catherine, en fait, une vraie européanisation de la cour de Saint-Pétersbourg. Donc, on s'était mis à parler français à la cour.
Ben donc, c'est après Pierre le Grand, d'accord.
Mais Pierre le Grand avait lancé aussi la construction, quand même, du palais de Peterhof, qui est une copie de Versailles. Qui ensuite va être agrandie et améliorée par l'ensemble des tsarines qui suivent, puisqu'il y a Élisabeth et ensuite donc Catherine. Et Catherine, elle est très intelligente, très intéressée par la lecture, la philosophie, etc. Et c'est vrai qu'elle va fasciner notamment Voltaire et Diderot.
Il y a une correspondance ?
Alors, il y a une correspondance avec Voltaire et Diderot, lui, il va faire le voyage. Il va aller là-bas, il a déjà 60 ans et il vient à la cour de Catherine, à Saint-Pétersbourg, et il discute avec elle 3 heures tous les 2 jours.
Ah oui.
Pour essayer de lui expliquer ce que c'est qu'un bon gouvernement, et il semble croire possible d'arriver à lui faire abandonner le despotisme, c'est-à-dire d'arriver à ce qu'elle elle-même décide une limitation de l'autocratie en Russie. Alors, est-ce qu'il y croit vraiment ?
À ce moment-là, on pense à Emmanuel Macron qui tente d'imposer ou de convaincre Vladimir Poutine d'abandonner le despotisme. Est-ce que c'est du même ordre en termes de résultats, c'est le même résultat.
En fait, il y a beaucoup d'illusions. Oui. Parce que, bon, en fait, Catherine n'a absolument pas l'intention d'abandonner l'absolutisme. Elle a, au contraire, été celle qui a agrandi le plus l'Empire et qui l'a organisé. Disons que Catherine, elle manipule pas mal les grands esprits européens qui sont fascinés par... Donc Voltaire l'appelle la Sémiramis du Nord.
Expliquez-nous.
La Sémiramis du Nord, c'était cette princesse de Babylone, les jardins suspendus. Mmh. Donc quelqu'un de très, très raffiné. Voilà. Oui. Et donc, on a l'impression que la grande Catherine pourrait apporter finalement un raffinement à l'Europe et une pensée plus fine que la plupart des monarques européens. Mais en fait, elle a un peu acheté aussi les philosophes des Lumières, parce que Diderot, par exemple, elle lui achète toute sa bibliothèque. Donc toute la bibliothèque de Diderot est dans la bibliothèque impériale de Catherine II, et elle en laisse l'usage, mais comme ça fait un revenu à Diderot. Elle lui donne une pension. C'est-à-dire qu'elle achète un peu aussi ceux qui l'admirent et qui la soutiennent.
Ça, c'est, encore une fois, on ne va pas faire en permanence le jeu de l'avant-après ou aujourd'hui-avant, mais l'idée que la Russie achète de l'influence grâce à de l'argent, c'est intéressant. C'est intéressant.
Oui, alors, bon, on ne peut pas dire que Diderot, c'est quand même pas quelqu'un de corrompu.
Non, mais est-ce qu'ensuite, un Diderot, un Voltaire deviennent des avocats la Russie
oui,
en France? Et comment ça se passe, ça?
Ben, Diderot, effectivement, va, par exemple, faire publier à La Haye, la Hollande, c'est un pays où il n'y a pas de censure à l'époque. Mmh. Il fait publier un certain nombre de textes sur la manière dont la Russie... éduque sa jeunesse, etc. Donc, c'est évidemment des éléments de propagande pour la Russie qui se présente de cette manière-là comme un pays très cultivé, qui est en train de se civiliser à grande vitesse. Et donc, bien sûr que Diderot, Voltaire sont des agents, d'une certaine manière, d'influence de Catherine. Mais en même temps, il croit aussi possible d'influer sur sa manière de gouverner. C'est vrai que Catherine avait lu Montesquieu et essaye de... Elle réunit des états généraux un peu avant les états généraux de Louis XVI. Hein. Bon, ça ne débouchera sur rien, mais Diderot y croit. Il croit à un moment donné possible la mise en place d'une forme de limitation de la souveraineté de l'autocrate.
Et d'un point de vue géopolitique, des relations internationales, est-ce que dans ces années-là, on est au XVIIIe siècle, le rapprochement qu'avait espéré Pierre le Grand se réalise, ou bien on reste que dans le domaine des idées, dans le domaine des penseurs, dans le domaine de la culture?
On le reste dans le domaine des idées, etc. Parce que, par ailleurs, Catherine fait la guerre à la Pologne, puisqu'elle va partager la Pologne avec la Prusse et l'Autriche-Hongrie. Et elle a fait la guerre à l'Empire ottoman et elle conquiert la Crimée, ce qu'on appelle la Nouvelle-Russie à l'époque, qui va être colonisée à l'époque de Catherine. Donc, elle n'est pas du tout dans des alliances qui vont avec la France, puisque la France soutient plutôt la Pologne. Et par ailleurs, c'est la Révolution française. Et Catherine, évidemment, ne peut être que très inquiète par ce qui se passe en France avec notamment Louis XVI guillotiné.
Et cette alliance culturelle avec ses limites géopolitiques, on va la voir exploser au début des années 1810 avec la conquête de la Russie par Napoléon et par la présence des Cosaques russes à Paris en 1814. Ça sera l'objet de notre prochain épisode. France-Russie, anatomie d'une passion, un podcast original de France Inter.